Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le Supérieur Général, Excellences, chers confrères, très chères sœurs, chers fidèles, encore une année d'ordination dans la paix, apparente au moins, dans le soleil, dans le beau valet, toujours autant de dons de Dieu, sachant l'en remercier, arrive peut-être le temps où il n'est plus possible de célébrer les grandes ordinations comme celle-ci. Qui sait? En tout cas, dans la logique des, dans le cours des événements actuels, on va vers la persécution, qui sait, peut-être sanglante, physique. Alors que nous soyons là encore une fois, et dans ce prêt que nous n'aurons pas l'année prochaine, et l'emplacement qu'on aura sera-t-il aussi beau? Je n'en sais rien. Tempore mutantur, nos et mutam renilis. Les temps changent et nous changeons en eux, avec eux. Et les temps de ces ordinations avec Mgr Lefebvre sont passés. Et plusieurs choses qui nous sont si familières maintenant depuis des années vont passer, y compris ce prêt. Stat crux dum volvitur orbis. La croix se tient, le monde bouge, tout le monde tourne. Dum volvitur orbis, dum revolvitur orbis. Revolutio toto per orbem. La révolution dans tout le monde. Tout le monde aujourd'hui, bousculé, bouleversé, et la croix se tient. Ce bouleversement du monde, un monde en délire, et chaque jour davantage. L'hérésie, le mensonge, la mort. L'hérésie, nous nous en rendons même plus compte. À force de vivre depuis des années dans une ambiance de liberté religieuse et de libéralisme, nous nous habituons, non pas, disons, non pas aux erreurs, encore que, bien sûr, on s'habitue aux erreurs, mais supposons que nous nous habituons pas aux erreurs, nous nous habituons quand même à ce que la vérité ne soit pas si importante. Oh oui, les autres sont en erreur, nous possédons la vérité, mais quand même, ce sont des gentilles personnes, etc. L'hérésie, nous nageons dans l'hérésie. Elle nous infecte tous, au point justement où nous nous en rendons plus compte. Mais nous étouffons dans l'hérésie. Elle nous étouffe. C'est terrible l'hérésie, c'est le pire des péchés. Parce qu'elle s'attaque à la foi. Elle corrompt l'intelligence. Et la conclusion logique de cette attaque par l'hérésie dans le domaine donc surnaturel de la foi, c'est la corruption radicale et de l'intelligence même naturelle. L'intelligence se dissout. Et on y perd la vérité, et on perd le sens de la vérité, l'acuité, l'urgence primordiale de la vérité. Et nous nous habituons avec tout le monde à dire, ah oui, la vérité, oui, qui sait, qu'est-ce que c'est que la vérité, pense Pilate. Alors nous étouffons dans l'hérésie et nous nous noyons dans le mensonge. Le mensonge à plein débit et à longueur de journée. Les mensonges qui sont le moyen pour l'homme de fabriquer un anti-monde, un anti-nature, un contre-monde, un contre-nature, en dehors de celui que Dieu nous a donné, que Dieu a fait. Et l'homme veut s'installer dans un monde de ses rêves, un monde profondément faux, irréel. Et nous y habituons. Et alors la mort. C'est mensonge contre nature qui aboutissent à la mort. Cette attaque contre la nature, c'est terrible. Par exemple, contre la féminité. Aux États-Unis, on en sait quelque chose. Heureusement, je peux vous assurer que la foi et la tradition catholique défendent la féminité et protègent et encouragent. Mais par ailleurs, on dit de la grande reine Isabelle d'Espagne qu'on lui a demandé une fois ce qu'elle voudrait comme sujet de peinture. On allait lui faire une peinture. Qu'est-ce qu'elle voudrait dans cette peinture? Elle aurait répondu qu'il y ait une femme, un criminel et un prêtre dans cette peinture. La femme qui enfante, le criminel à la potence et le prêtre à l'autel. C'est dire que la grande reine comprenait que chaque chose et que chaque personne soit à sa place et selon sa nature. Il y a un ordre de la nature, nous devons tous nous insérer dans cet ordre. Et si nous dissolvons cet ordre de la nature, taisons la surnature. Mais si nous dissolvons cet ordre de la nature, eh bien tout va se disloquer et ce sera la mort comme nous le voyons aujourd'hui. La mort, le suicide, l'avortement, ce fléau de l'avortement qui, comme aurait dit Mère Thérèse de Calcutta, appelle le châtiment de Dieu sur l'Occident, sur ces nations occidentales, apparemment prospères, mais réellement pauvres, spirituellement pauvres, à côté desquelles ces nations matériellement pauvres sont relativement et comparativement, en comparaison, riches. Quelle pauvreté de ces nations apparemment prospères et riches. C'est nous autres, mes chers amis, de ces démocraties occidentales où la jeunesse se suicide, si nombreux, et si, où la jeunesse en si grand nombre se suicide, que les vieillards se suicident parce qu'ils pensent n'avoir plus de raison de vivre, c'est toujours un péché mortel. Mais humainement, c'est compréhensible. Attention, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Mais Mais que les jeunes se suicident, cela c'est la folie. Mais c'est ce qui se passe. Ils sont nombreux dans toutes ces nations occidentales et ça se répand toujours plus, sans doute dans les autres nations aussi. Mais c'est fou que la jeunesse n'ait plus ou ne sente plus de raison de vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouf. On s'habitue, on n'y pense pas. Oh, c'est dommage, bien sûr c'est dommage, mais que voulez-vous? L'hérésie, le mensonge et la mort. Et c'est un raz-de-marée qui monte toujours. Contre l'hérésie, la doctrine qui erre, l'erreur en dehors du droit chemin, il faut la voie, la bonne voie. Contre le mensonge, la vérité. Contre la mort, la vie. Je suis la voie, la vérité, la vie. Dans ce pauvre monde, il faut notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur. Et c'est pour lui avoir tourné le dos que notre Occident, que notre monde se trouve dans un tel état. La voie, la vérité, la vie. Notre Seigneur, qui lui-même est sur terre 33 ans, mais qui pour continuer cette œuvre de rédemption et de salut a institué ses prêtres. Et les prêtres catholiques sont notre Seigneur Jésus-Christ. Sacerdos alter Christus. C'est Saint Jean Chrysostome, c'est la doctrine de l'Église, c'est l'Épître aux Hébreux. Vous vous souvenez dans l'Épître aux Hébreux que Saint Paul souligne l'unicité du sacrifice du Christ et l'unicité du prêtre Christ à tel point que les protestants, malmenant la lettre de l'Écriture, on arrive à dire qu'il n'y a que le sacrifice unique de Calvaire et qu'il n'y a que le prêtre, le souverain prêtre Jésus-Christ lui-même. En dehors de Calvaire, pas de sacrifice, la messe n'est pas un sacrifice. En dehors de Calvaire, pas de prêtre, il n'y a que Jésus-Christ prêtre. C'est faux, évidemment. Mais ça s'appuie sur la lettre de Saint Paul, car en lisant Saint Paul, en effet, Saint Paul souligne l'unicité du sacrifice et l'unicité du prêtre. C'est en contraste avec les sacrifices de l'Ancien Testament, qui, disait Saint Paul, se répétaient, et en contraste avec les prêtres de l'Ancien Testament, des prêtres de l'ordre d'Aaron, les prêtres qui se succédaient, qui mouraient, qui vivaient, qui naissaient, qui mouraient, qui naissaient, donc ils se succédaient. Or, pour le sacerdoce du Nouveau Testament, Saint Paul dit, il n'en est pas ainsi. Il y a quelque chose d'autre entre le sacerdoce du Nouveau Testament et le sacerdoce de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un prêtre, c'est Jésus-Christ. Or, les prêtres catholiques meurent et naissent, et se font ordonner, naissent dans l'ordination, comme les prêtres de l'Ancien Testament, sauf que les prêtres de l'Ancien Testament naissaient avec leur naissance dans la tribu de Lévi, la famille d'Aaron, etc. Mais qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'apparemment, selon les apparences, les prêtres du Nouveau Testament, les prêtres catholiques meurent et naissent comme les prêtres de l'Ancien Testament, et pourtant Saint Paul dit que ce n'est pas pareil. Pourquoi n'est-ce pas pareil? Eh bien, parce que tout comme la messe n'est autre comme sacrifice que le calvaire, c'est le même sacrifice, un et le même sacrifice, de même, le prêtre catholique, ou analogiquement si vous voulez, en tout cas, au moins analogiquement, le prêtre est un et le même avec Jésus-Christ. Mystère, chers amis, de notre foi. Voilà d'où vient la vénération de toujours des catholiques pour leur sacerdoce, le sacerdoce de leur Église, de leur Seigneur. Et alors, aujourd'hui, ce don énorme que notre Seigneur va faire à son Église, d'encore 15 prêtres, 15 lui-même, 15 Jésus-Christ. Oh, nous restons, nous sommes payés pour le savoir, nous restons des hommes, nous autres prêtres, nous gardons nos petitesses, nos bassesses, nos misères. Mais pour peu que nous nous soumettions à cette agence qui est en nous, pour ainsi dire, pour peu que nous vivions dans notre sacerdoce, eh bien, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul, et en particulier dans le prêtre, de façon particulière dans le prêtre, lorsque le prêtre agit comme prêtre. Et c'est pour cela, bien sûr, que vous irez vous confesser, par exemple, un exemple concret, vous irez vous confesser à toute une série de prêtres, de bons prêtres, de prêtres qui essaient de faire leur devoir. Et essentiellement, vous aurez chaque fois la même réponse, les mêmes conseils, les mêmes consignes. C'est parce que c'est notre Seigneur qui parle à travers ce pauvre être humain qui va mourir. Mais le sacerdoce ne mourra pas comme saint Paul nous le dit. Quelle grandeur d'être les porteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes venus ici célébrer, mes chers amis, la naissance d'encore 15 prêtres pour l'Église catholique. 15 prêtres qui, Dieu aidant, essayeront de faire leur devoir. Et alors, quelques petites consignes, quelques conseils pour ces prêtres. Un conseil relativement nouveau et des conseils anciens. Le conseil relativement nouveau serait le respect de la nature. Je n'entends pas l'environnement. Je n'en suis pas environnementaliste, ni globaliste, ni écologiste, ni... Non, c'est pas ça. Intéressant comme cet homme moderne, ce fief et hypocrite, tout en bâclant la nature divine, prétend qu'il est ami de la nature naturelle, des arbres et des forêts, etc. Quelle hypocrisie! Je dis le respect de la nature. Je veux dire surtout, très cher jeune, très cher diacre, bientôt prêtre, le respect de la nature humaine, pas bien sûr de cette nature déchue, de la corruption qui entache la nature depuis Adam et Ève, mais la nature faite par Dieu qui est sujet de cette corruption comme elle doit être sujet de la grâce. C'est la même nature humaine qui est sujet et du péché originel et des péchés personnels et de la grâce. Elle est la base de nous-mêmes. Et si nous distinguons entre la corruption qui lui est innée, c'est d'accord. Mais c'est quand la corruption est un mal qui prérequiert un sujet qui est un bien. Et la nature humaine qui est le sujet de cette corruption, de toute la corruption que vous voulez, il faut quand même un sujet, que ce sujet est un bien. Et c'est un bien qui vient de Dieu. Et c'est à ce bien-là que le démon s'attaque aujourd'hui. Concrètement, un exemple très clair à la nature humaine féminine, j'en disais tout à l'heure deux mots, dénaturer la femme, dénaturer la mère, mais c'est aussi l'homme qui est dénaturé. Tout est dénaturé. Alors le respect de la nature, la connaissance de la nature, une affection pour cette nature humaine, toujours pas la corrompue, mais celle qui vient de Dieu et qui se présuppose à la grâce. À quoi sert un vin magnifique sans bouteille? La bouteille est faite de pauvres verres. Elle ne vaut pas grand-chose. Mais sans cette pauvre bouteille, comment aurez-vous le vin délicieux? La grâce doit bien se sujeter dans une pauvre nature humaine. Elle est bien pauvre, cette nature, d'accord, mais elle devient le trône d'une reine lorsque la grâce vient s'y asseoir. Non seulement la misère de la nature, mais la beauté, la grandeur de la nature humaine. Toute précaution bien observée, c'est évident. Mais dans les écoles en particulier, c'est cette nature qu'il faut restaurer. Il faut s'occuper de cette nature. Il y a des problèmes naturels, ne suffisent pas les remèdes surnaturels. Ce n'est pas intelligent. Vouloir étouffer les problèmes naturels dans les remèdes surnaturels, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas la bonne éducation. Tous les grands éducateurs catholiques en sont bien conscients. Occupons-nous de la nature. Naturam expellas fuoca tamenusque recurrit, disait le poète païen qui avait du bon sens. Du bon sens qui aujourd'hui est attaqué. Et c'est pour cela qu'il faut recourir même aux païens pour défendre le bon sens, pour autant qu'ils défendent le bon sens. Vous aurez beau expulser la nature avec une fourche, elle reviendra toujours par derrière. Naturam expellas fuoca tamenusque recurrit. Et pour cela, cher diacre, ne soyez pas libéraux. Ne soyez pas libéraux. Mais ne soyez pas non plus trop antilibéraux dans ce sens-ci. Il y a un sens dans lequel on ne peut pas être trop antilibéral. Mais dans un autre sens, celui qui exagère, toute exagération se paie. Et si vous êtes trop antilibéral, vous finirez par être libéral. On l'a vu. Vous avez des confrères brillants, jeunes diacres, qui à force de s'être voulu si antilibéraux, ont fini dans le libéralisme. Donc, un respect de la nature, un respect du bon sens, évitez l'exagération et soignez cette pauvre nature comme le bon samaritain. Elle est aujourd'hui très attaquée, très minée. Elle n'a pas d'amis. Elle a beaucoup d'ennemis, cette nature, telle que Dieu l'a faite, telle que Dieu la veut, comme sujet de la grâce. Mais c'est à nous autres prêtres catholiques de défendre même la nature. Défendons-la, respectons-la en nous-mêmes. Ne nous épuisons pas. Travaillons, labourons. Jusqu'à la fatigue, certainement, notre Seigneur a habituellement été fatigué, sans doute. La fatigue nous va, mais pas l'épuisement, pas un épuisement bête qui matraque et assomme notre nature. Ménageons sans gâter cette nature. Et alors, des conseils plus classiques, si vous voulez, mais je crois que c'est l'époque et les mots de l'époque qui nous poussent, qui nous pousseront toujours plus à protéger, à discerner les besoins de cette nature qui est de Dieu, à la protéger, à l'encourager, à la faire épanouir. Chers jeunes, comme remède surnaturel, les exercices de Saint Ignace, aimez les exercices de Saint Ignace. Ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'apostolat de l'Église, mais ils sont encore un grand don de Dieu, dans les temps modernes en particulier, pour rappeler les hommes à Dieu, pour que les hommes n'oublient pas les grandes vérités du salut et de la damnation éternelle, pour secouer les hommes endormis dans le péché, dans ce monde qui étouffe donc dans l'hérésie et qui se noie dans le mensonge et qui se voue à la mort. Respectez les exercices. Profitons-en pour nous-mêmes et sachons en faire profiter les autres. C'est un don certain de Dieu. Et La fidélité est quelque chose de grand. Fides, fidelitas. Fides, fidelis, fidelitas. Fidélité de fidèle, fidèle de foi. La fidélité est en rapport direct avec la foi. Mais soyons fidèles, pas seulement comme catholiques, à la foi catholique, sachons être fidèles à ce don inimaginable qu'est la fraternité Saint-Pie-X. C'est là où le bon Dieu nous a mis, mes très chers amis. Sachons rester là où Dieu nous a mis. Sachons aimer cette fraternité. On dit que le bon Dieu aime travailler avec des nullités. On pourrait dire, la fraternité Saint-Pie-X, lui en offre une belle collection. Mais c'est notre famille, et ces nullités sont mes frères et mes sœurs. Et j'en suis une. C'est notre famille. Et divites dimis itinanes, c'est avec les humbles que le bon Dieu peut travailler, avec ces humbles qui laissent de la place pour le bon Dieu de travailler, qui ne veulent pas prendre toute la place eux-mêmes. L'humilité, mes très chers frères. Et avant tout, dira Saint Paul, le vinculum caritatis, la charité. Vous et moi, nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes pas impeccables. Nous sommes de pauvres êtres, même si on est des êtres sacerdotaux. On reste à côté de ce qui est notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Il reste le pauvre homme avec ses misères qui sont toujours là. Matière de combat. Ménageons nos confrères, ménageons les âmes. Soyons paternel et maternel pour les hommes, pour les pauvres gens aujourd'hui. pour nous-mêmes aussi. Comme disait Saint François de Sales, il faut être patient avec nous-mêmes aussi, de la charité pour nous-mêmes aussi, pour les autres et pour nous-mêmes. L'orgueil tue et il aveugle. Et c'est pour cela que souvent le bon Dieu préfère et marche avec les nullités. Finalement, ce combat qui se dresse devant nous, toujours terrible, même plus terrible que jamais, ce n'est pas par les moyens humains que nous allons en sortir, pas du tout. Tous les leviers du pouvoir humain et naturel sont aux mains des ennemis, de l'ennemi. Vous êtes des David qui sortez contre des Goliath. Vous sortez avec votre missel de poche, c'est votre fronde et votre rituel. Vous avez deux frondes, le rituel et le missel de poche. Et puis les cailloux, c'est le vin et le pain que vous allez consacrer. C'est là que ça, cela, l'Eucharistie, les sacrements, la grâce sacramentelle qui va frapper ce géant entre les yeux et qui va le terrasser. Grand combat grandiose, que je termine avec les mots du père des frères Maccabées à l'entrée de leur grand combat. À ce moment-là, nous savons que le combat a bien terminé, mais le père Mattathias ne le savait pas du tout à ce moment-là. Il était sorti dans le désert avec ses fils et avec quelques amis, et apparemment la situation était sans issue. Mais Mattathias et ses garçons avaient la foi. Maintenant, je cite, « règne l'orgueil et sévit le châtiment. C'est un temps de ruine et de colère. » C'est Mattathias qui parle. 170 ans avant notre Seigneur. « Maintenant donc, mes fils, déployez votre zèle pour la loi et donnez vos vies pour l'alliance de nos pères. Souvenez-vous des œuvres que nos pères ont accomplies de leur temps et vous recevrez d'une gloire et un nom immortel. Considérez dans tous les âges que tous ceux qui espèrent en lui, en Dieu, ne succombent point. Ne craignez point les menaces d'un homme pécheur, car sa gloire va à la corruption et au ver. Il s'élève aujourd'hui et demain on ne le trouvera plus, parce qu'il sera retrouvé dans sa poussière et que ses pensées se seront évanouies. Vous donc, mes fils, soyez forts et vaillants à défendre la loi, car par elle vous serez glorifiés. Einige Worte auf Deutsch, die französische Predigt zusammenzufassen. Die Welt von heute geht unter. Ein furchtbarer Zusammenbruch und Untergang. Die Irrlehre, die Lüge, der Tod. Die Irrlehre, wovon wir selbst nicht mehr bewusst sind, weil es allgemein angenommen wird, akzeptiert wird, die Irrlehre. Es geht von sich, die Irrlehre ist eine Selbstverständlichkeit. Und wir nehmen nicht mehr wahr, wie wichtig die Wahrheit ist. Nicht nur die Wahrheit, sondern der Sinn der Wahrheit geht verloren. Wir denken, viele, ja, die Wahrheit, was macht sie doch so viel aus? Die Menschen denken das und andere Menschen denken so und wer weiß letztendlich, wo die Wahrheit zu finden ist. Deswegen Dadurch entsteht eine Welt von Lügen. Denken wir nur an die Massmedien. Massmedien von Verderbnis, wegen hauptsächlich der Lüge. Der Lüge herrscht ein Triumph heute. Wir werden alle und immer wieder und stets und unaufhörlich angelogen. In Politik, in Wirtschaft, in Religion, überall. Auf den Universitäten. Eine Welt von Lügen. Und von dieser Ehrenlehre und von diesen Lügen der Tod. Und man sagt uns, dass heute selbst die Jungen, zahlreiche Jungen, töten sich selber, begehen den Selbstmord. Dass die Alten den Selbstmord begehen, das ist einigermaßen verständlich. Einigermaßen. Aber dass die Jungen sich umbringen, das lässt sich nicht verstehen. Aber das ist der Fall heute. Und teilweise sicher, weil diese arme Jugend so allgemein angelogen wird. Wir ersticken in der Irrlehre und wir ertrinken in den Lügen. Und gegen diese Irrlehren, diese Lügen, dieser Tod, der Selbstmord, die Abtreibung, die entsetzliche Abtreibung, die Strafe Gottes auf sich herabruft. Was brauchen wir? Nichts anderes als gegen die Ehrenlehre, die sich irrt außerhalb des Weges, brauchen wir den guten Weg. Gegen die Lügen die Wahrheit und gegen den Tod das Leben. Unser Herr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und Jesus Christus kann allein uns heute retten und die heutige Welt retten. Nun aber sind die Priester, die katholischen Priester, die richtig geweihten katholischen Priester, sind die Fortsetzung von Jesus Christus. Das besagt die kirchliche Tradition, der heilige Johannes von Chrysostom, Sacerdos alter Christus, der Priester, ein anderer Christ, und der heilige Paulus im Hebräerbrief. Der heilige Paulus stellt den Gegensatz auf zwischen dem alten Bund, dem Opfer und dem Priester des alten Bundes und dem Opfer und Priester des neuen Bundes. Und er sagt, wie das Opfer und der Priester des neuen Bundes sind eins. Es gibt nur ein Opfer im neuen Bunde. Im alten Bunde gab es immer eine Reihe von Opfern, immer wieder, Tag ein, Tag aus, musste man immer wieder aufopfern im Tempel. Aber sagt der heilige Paulus, das Kreuz war das einzige Opfer des neuen Bundes. Auf ähnliche Weise sagt er, im alten Bunde mussten die Priester sich einander folgen. Im neuen Bund im Gegenteil gibt es den einzigen und allein den einzigen Priester, Jesus Christus. Aber anscheinend sehen wir, dass die Priester des neuen Bundes doch werden Priester und dann sterben und sich einander folgen wie im alten Bund. Anscheinend genau wie im alten Bund. Nein, sagt heiliger Paulus.
Ein einziger Priester, Jesus Christus. Was heißt das? Das heißt, dass das Wesentliche im katholischen Priester ist nicht dieser Priester selber, sondern Jesus Christus. Alle katholischen Priester sind eins, machen zusammen einen Priester. Sie machen die Fortsetzung des einen Priesters, Jesus Christus. Und deswegen ist der katholische Priester die Fortsetzung von Jesus Christus und der katholische Priester die einzige Lösung von den Problemen der heutigen Welt. Deswegen ist es eine ungeheure Gabe Gottes, dass wir heute noch 15 echte Priester bekommen. Und wir sollen dem Herrgott danken, dass wir noch Priester, Neupriester bekommen. Und diese Priester müssen die Natur in Acht nehmen. Es gehört zum Wahn von der heutigen Welt. Wahn, Wahn, überall Wahn. Es gehört zum Wahn von der heutigen Welt, dass die Natur unterhöhlt wird. Die Natur wird verfälscht, vor allem zum Beispiel die weibliche Natur. Das Weib wird entweibt. Die Natur wird verfälscht. Und dann gibt es kein Gefäß für die Gnade. Denn die Natur steht zur Gnade wie die Flasche zum Wein. Der Wein mag wunderbar, ein wunderbarer Wein sein, aber wenn es keine Flasche gibt, wie kann ich es denn zum Tisch tragen? Unmöglich. Irgendwelches Gefäß muss es geben für diesen wunderbaren Wein. Das Gefäß gilt nicht viel an sich. Einfach Glas gilt nichts. So wie, aber als Träger der Gnade, diese menschliche Natur ist ungeheuer viel und muss in Acht genommen werden und nicht nur verachtet werden. Es gibt natürlich die Verderbnis dieser Natur durch die Erbsünde. Wir wollen nicht die Erbsünde in Acht nehmen, sondern bekämpfen, immer wieder bekämpfen. Aber die Natur, die Erbsünde und die Gnade tragen muss, diese Natur ist von Gott. Die wird von der Erbsünde verletzt, von der Gnade geheilt. Aber sie ist weder das eine noch das andere. Sie ist wie eine Basis von den beiden. Ohne Natur gäbe es keine Erbsünde. Ohne Natur gibt es keine Gnade, die den Menschen erteilt wird wenigstens. Also die Ehrfurcht vor der Natur heute, wo diese Natur so entstellt wird, vor allem in der Erziehung. Und dann, dass die Priester auch treu sein, treu der Priesterbruderschaft, dieser Liebe, dieser arme, liebe Priesterbruderschaft. Sie ist nichts Großartiges und deswegen kann der Herrgott mit ihr arbeiten. Nehme sie sich für etwas Großes, dann hört er die Mithilfe Gottes auf, dass die Neupriester demütig sein, dass sie die Nächstenliebe üben, entgegen einander und sich selber. Wir müssen uns selber schonen, wie die anderen, und nicht zermalmen, wie heute der Fall ist. Und letztens die Worte vom alten Mattathias, der Pater von den Brüdern Makkabäus, in diesem großen Kampf des Glaubens, etwa 170, 160 Jahre vor Jesus Christus. Die Makkabäer, die das Volk Gottes gerettet haben und die unsere Erlösung ermöglicht haben, in diesem Sinn, dass ohne diesen Kampf, anscheinend hoffnungslos am Anfang, ohne diesen Kampf wäre menschlich gesehen das Volk Gottes gelöst worden, aufgelöst worden. Es brauchte diese Helden, gegen alle zu kämpfen, gegen alle Hoffnungslosigkeit, anscheinend Hoffnungslosigkeit, mussten die kämpfen, damit Jesus endlich kommen könnte, damit es ein Volk Gottes noch gäbe, worin Christus könnte erscheinen. Und wir werden diese Worte vom alten Matthias, habe ich nicht hier auf Deutsch, sie sind schon aber lesenswert, im zweiten Kapitel vom ersten Makkabäerbuch. Und immer, dass die Neupriester eine starke und männliche Andacht zur Mutter Gottes haben, die alle Häsien zertreten hat und die auch diese zertreten wird. Und in ihr haben wir Vertrauen. Die menschlichen Mittel gehen nicht mehr, immer weniger, mit jedem Tag weniger. Und es sind diese übernatürlichen Mittel, die uns durchbringen werden. Wir beten alle heute zur Mutter Gottes, auf dass sie den Neupriestern stets beistehe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
You. Jesus.